Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux incompréhensions entre France et États-Unis et États-Unis et France. À l'ordre du jour ce soir, que comprennent les médias américains de la France? En d'autres temps, cela aurait pu être prétexte à incidents diplomatiques. Voilà quelques semaines maintenant, plus exactement depuis l'assassinat de Samuel Paty et les meurtres de Nice, que monte une petite musique dont l'air principal serait, comme l'a dit le président de la République dans son entretien au Grand Continent, que, je cite, « beaucoup de condoléances ont été pudiques ». Parmi les premiers visés, la presse états-unienne qui décrirait le personnage d'Emmanuel Macron et sa politique contre le séparatisme islamiste, avec, je cite là encore, des mots qui ne sont pas les siens. Au cœur du débat, la republication des caricatures de Charlie Hebdo à l'occasion du procès des attentats de janvier 2015, des articles du Washington Post sur la réforme de l'islam souhaitée par le président, un titre de New York Times, la question de la laïcité ou encore l'importation de concepts supposément concoctés sur les campus américains dans notre propre espace intellectuel. Bref, l'incompréhension de ce qu'est, je cite encore le président de la République, le modèle français, c'est ce qui l'a dit au New York Times. Nous allons en discuter avec nos trois invités, James McAuley, qui est correspondant du Washington Post à Paris, Agnès Poirier, qui est journaliste et essayiste, correspondante pour l'Express au Royaume-Uni et qui écrit pour la presse américaine et la presse anglaise, et Adam Nociter, le directeur du bureau du New York Times à Paris. Bonsoir Agnès Poirier.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, James McAuley.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Adam Nociter. Merci d'avoir accepté notre invitation de débattre pendant 40 minutes sur cette question. Vous venez de donner un entretien au journal Le Point, dans lequel vous expliquez justement que peut-être une question comme celle que nous posons aujourd'hui, ce serait le signe du nombrilisme français, le nombril français bien connu qui ferait qu'on s'imagine être encore le centre du monde alors qu'on ne l'est plus. Est-ce que vous pensez que poser la question comme nous la posons, que comprennent les médias américains de la France, ça n'est pas qu'ils ne le comprennent pas, mais la façon dont ils l'envisagent, eh bien, c'est une mauvaise question. Adam Nociter ?
Non, vous pouvez le poser. Ça. Oui, vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Allô ?
Oui, je vous entends très bien. Allez-y, je vous entends très bien.
Ok. Oui, alors, c'est quoi la question encore?
Non, est-ce que poser la question comme nous la posons,
vous m'entendez?
Oui, très bien. Que comprennent les médias américains de la France? Est-ce que c'est poser une question nombriliste, comme vous le dites dans l'entretien que vous donnez au Point aujourd'hui?
Non, je crois pas, non.
Non, c'est mal comprendre ce que j'ai essayé de dire à ce monsieur-là. Nous faisons notre boulot, c'est tout. Nous essayons de décrire la réalité de la France. Nous n'écrivons pas pour les Français, nous écrivons pour un lectorat global et américain.
Ouais.
Et donc, il ne s'agit pas pour nous de conforter quelques préjugés que ce soit français ou autre.
Et ça veut dire que quand le président de la République semble s'énerver, prendre, disons assez mal des articles de la presse américaine, états-unienne ou des articles du Financial Times, par exemple, qui auraient été publiés sur la France à propos de la laïcité, eh bien, il se trompe. C'est simplement que vous faites votre travail et que ce travail est mal compris par les Français.
Non, j'ai pas dit ça. Je peux pas expliquer du président français. C'est à lui de s'expliquer
bien
lui-même.
Bien sûr.
Je dirais tout simplement que nous faisons le travail qui est le nôtre et c'est à lui, ça revient à lui en fait de s'expliquer pour ses raisons d'être en colère contre nous.
Oui.
Vous savez que monsieur Trump, le président américain, était dans une rage continuelle contre nous pendant 4 ans. Donc peut-être le président français suit ses pas, je ne sais pas, je ne peux pas je peux pas parler pour lui.
Bien sûr. James McAuley, James McAuley, vous êtes correspondant pour le Washington Post à Paris.
Exactement, oui.
Qu'est-ce que vous pensez de cela, de ce moment un peu particulier, suspendu depuis maintenant un peu plus d'un mois, où on entend, mais c'est pas simplement le président de la République, des membres du gouvernement, mais aussi une partie de la presse française qui disent, on ne sait pas ce que font les journaux états-uniens en France, comment ils comprennent la réalité française. En tout cas, disent ces journaux, ils ne comprennent pas la laïcité à la française. Ils ne comprennent pas certaines des notions qui sont importantes pour la France, James McAuley.
Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et aussi vous, Adam, et vous, Agnès. En premier... C'est complètement vrai qu'il y a certains commentateurs américains qui ne comprennent rien de la France. Et on voit ça sur Twitter tout le temps. C'est le cas. Mais sur cette question de la confusion qui existe entre la France et aux États-Unis maintenant, et surtout sur notre travail, je pense que cette confusion qui existe au sujet, surtout la lutte du gouvernement français contre le séparatisme islamiste et non contre l'islam, comme le président Macron a justement insisté lui-même, et le résultat du message plein de confusion du gouvernement français et non de l'idéologie des journalistes américains comme moi ou comme Madame. En tant que journaliste, il est notre devoir de rendre compte de ce qui est dit et ce qui est fait. Et la vérité maintenant, c'est que la ligne du gouvernement n'a guère été claire depuis le début de cette affaire. Par exemple, juste avant les attentats récents, le président de la République a prononcé un discours équilibré et substantiel au Mureau, exprimant sa vision de la lutte contre le séparatisme islamiste et de la réforme de l'organisation de l'islam en France. Mais en même temps, il y a la parole du président qui est très claire, et aussi la parole de ses ministres, apparemment autorisés à proférer dans ce moment si fort en émotion des insultes aux millions de Français qui pratiquent la foi musulmane pacifiquement et qui sont pleinement des citoyens de la République, sans problème. Et pour nous, ce qui est important, ou je dois dire pour moi, ce qui est important, c'est que la présidente n'a publiquement réprimandé aucun de ses ministres pour leurs commentaires, ce qui a donné au message de l'exécutif une dissonance que nous avons été obligés de rapporter à nos lecteurs. Mmh. Et évidemment, je parle ici des commentaires de M. Darmanin, par exemple avec la viande halal et cachère dans les rayons ethniques dans les supermarchés, et aussi de M. Blanquer avec cette terme de l'islamo-gauchisme dans les universités françaises. Mmh. Donc, la question pour moi, quel serait alors le combat du gouvernement?
Ouais. Agnès Poirier, vous qui êtes à la fois correspondante pour des journaux états-uniens et des journaux britanniques pour la France, qui écrivez pour ces journaux et puis qui avez aussi travaillé au Royaume-Uni, qu'est-ce que vous pensez de cette querelle qui s'est engagée depuis maintenant un peu plus d'un mois ?
Écoutez, je pense qu'il faut être précis. Par exemple, quand James parle d'insultes de ces deux ministres envers les musulmans français, moi je n'ai pas entendu d'insultes. Islamo-gauchisme est un concept comme un autre, c'est une opinion aussi. Il me semble pas me rappeler d'insultes. De même que c'est vrai que la sortie est assez maladroite de Darmanin, mais qui parlait du fait que la nourriture halal et la nourriture cachère étaient dans des ailes séparées des supermarchés, c'est ça qui le choquait. Où est l'insulte? Maintenant, soyons un peu précis, parce qu'effectivement, les journalistes, les correspondants étrangers font leur boulot. Ça, on ne va jamais, sans doute, leur reprocher. Le président Macron c'est un lecteur. Il faut quand même rappeler que nous avons une vénération. Parfois justifié, mais pas toujours, de ces, par exemple, puisque nous avons Adam Nociter et James McAuley, du Washington Post et du New York Times en France. Alors, nos attentes sont très grandes, peut-être trop grandes. Et le président Macron, comme nous, comme certains d'entre nous, lit avec attention et aussi le Financial Times. Qu'a-t-il reproché, par exemple, récemment? Il faut être précis. Il a reproché à Ben Smith, qui est donc spécialiste des médias du New York Times, d'avoir laissé entendre que le président, dans un accès de rage, l'avait appelé. On sait aujourd'hui que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, que Ben Smith a appelé plusieurs fois l'Élysée pour obtenir une interview que le président donne très très rarement, mais parce que le sujet est sensible, il a pris le temps de lui parler 10 minutes. Il l'a aussi accusé de trumpien. Il a aussi laissé entendre que le président Macron avait fait retirer un article du Financial Times. Parlons de cet article du Financial Times. Dans cet article, il y avait 5 énormes erreurs factuelles. Je ne parle pas du ton, je ne parle pas des demi-vérités. Non. Par exemple, il était dit que, il était dit que le président avait parlé de séparatisme musulman alors qu'il s'agissait de séparatisme islamiste. Les mots ont quand même une importance. Ou même que la nourriture halal allait être interdite dans les supermarchés. Donc le Financial Times, qui n'a pas fait ce qu'il fait très bien habituellement, son rôle de fact-checker, c'est-à-dire de vérifier les faits avant la publication d'un article, a décidé de le retirer. Voilà. Donc, si vous voulez, le président Macron n'intervient pas. Il est choqué parfois par des mots qu'on met dans sa bouche. Et c'est ce que nous avons vu parfois dans certains papiers, dans, je dois dire, un article de James Macaulay, par exemple, où il disait nommément que le gouvernement français voulait dissoudre des associations musulmanes. Ce n'est pas le cas. Ce sont des associations islamistes. Et en fait, comme disait Camus, n'ajoutons pas, enfin pour le paraphraser, n'ajoutons pas au malheur du monde en ne nommant pas bien les choses.
James Macaulay, puisque vous venez d'être cité par Agnès Poirier, effectivement, il y a eu quelques discussions aussi ce week-end. Ça n'était d'ailleurs pas une correspondante.
Le collectif contre l'islamophobie n'est pas forcément désigné par tout le monde comme une organisation islamiste.
Adam Nociter,
Oui, certaines le voient comme une organisation plus ou moins respectable des musulmans qui est intervenue à maintes reprises pour défendre les droits des musulmans. Ce n'est pas exact de qualifier cette organisation comme islamiste.
Oui, James Macaulay.
Je pense que l'article que Agnès cite, elle discute que le titre de ce papier.
Non, je ne parlais pas du titre, c'est dans l'article. Les titres, effectivement.
Agnès, si je peux répondre à votre accusation.
Allez-y, James Macaulay.
Donc, ce sont des organisations musulmanes accusées par le gouvernement de radicalisme. Ce qui ne fait pas une organisation islamiste, en fait. Donc, ça, c'est une accusation. Et on note que c'est le gouvernement qui accuse ces organisations d'être islamistes. Et ça, c'est une différence importante. Mais vous venez de dire que c'est important de garder la précision. Et c'est ça, la précision.
Et James Macaulay, effectivement, ce que l'on voit monter, ou Adam Nociter, ce que l'on voit monter, c'est effectivement plein de petits faits qui sont embrassés les uns avec les autres, et ces petits faits deviennent un phénomène. C'est assez étrange parce que un titre par ici, un titre qui est resté 40 minutes sur le site du New York Times et qui a été ensuite changé, qui n'avait pas été imprimé sur le New York Times, devient un moment de discussion entre des élites françaises et les journalistes états-uniens, etc., etc. On a l'impression que ce sont des petits faits qui sont ensuite rassemblés ensemble, Adam Nociter.
Oui, alors là, il faut parler, il me semble, de la mauvaise foi d'une grande partie de la presse française qui a maintenu une controverse là où il devrait ne pas y en avoir. Comme vous venez de souligner, ces titres-là n'a resté sur notre site que pour une quarantaine de minutes, le temps pour nous de vérifier les informations. Il en va de notre déontologie au New York Times, à l'encontre de certains autres médias, de vérifier avant de publier. Donc, c'était le cas ce vendredi soir. Nous étions en train de vérifier et pendant ce temps-là, on a mis ce titre.
C'était donc le soir de l'assassinat de Samuel Paty, il faut préciser.
Exactement. Il a tout de suite été retiré, non pas nullement à cause des protestations, comme on pourrait lire ici et là dans la presse française. Donc c'est une controverse des plus bêtes qui a été entretenue avec beaucoup de mauvaise foi et de malhonnêteté.
Agnès Poirier.
Oui.
Sur ce débat, sur ce fait que effectivement, ce sont des petits faits qui sont rassemblés et qui, d'un seul coup, alors pour certains font paysage, disent voilà, bien, on a des correspondants de la presse anglaise. Alors on les nomme généralement avec ce terme un peu idiot de anglo-saxonne, effectivement, comme si les Britanniques et les États-Unis étaient du même pays. On a donc tous ces petits faits et on se dit, eh bien, tous ces petits faits font un paysage pour certains et d'autres. Non.
Oui, alors il faut distinguer évidemment parce que disons qu'il y a un peu de tout. Il y a de la mauvaise foi des deux côtés. Il y a du côté français et américain. On va pas faire une compétition de mauvaise foi. Je ne sais pas qui serait vainqueur.
On a l'habitude depuis deux siècles. Mais pas.
Voilà. Mais il y a un peu d'ignorance, il y a un peu de mauvaise foi, il y a, mais parfois, en fait, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la peine qui a été la nôtre, la douleur et le choc, à l'assassinat de Samuel Paty et suivi 13 jours plus tard de 3 catholiques à la basilique de Nice. Et disons que on ne s'attendait pas peut-être à ce que on entende répéter quand même cette petite musique, comme vous dites, qui serait que finalement ces attaques sont la conséquence inévitable et après tout compréhensible et qui viendrait, si vous voulez, de l'oppression de 10 millions presque de musulmans en France, oppression supposée. Il y a une espèce de confusion mentale, me semble-t-il, entre la laïcité, on peut peut-être en parler, et comment l'expliquer, et puis aussi des questions d'intégration. Et alors, et surtout, on a eu un peu de tout. On a eu aussi, par exemple, on devrait en parler ce week-end, là, de quelque chose d'extraordinaire. La responsable des pages opinion et débat du Washington Post, qui a 200 000 suiveurs sur Twitter et qui a diffusé, relayé avant, évidemment, ouais, s'excuser, quand même, que la France fichait, l'État français fichait les enfants musulmans.
On va donner tout de suite la parole et à James McAuley et à Adam Nociter qui veulent vous répondre, Agnès Poirier. Qui prend la parole le premier? James McAuley?
Non,
Adam Nociter, allez-y.
Écoutez, moi, ni James ni moi n'ont jamais écrit que les assassinats terroristes étaient le fait de l'oppression musulmane, de l'oppression des musulmanes, d'un quelconque racisme. Ça, c'est absolument faux de prétendre cela. Seulement, on doit toujours donner le contexte, et le contexte était ces caricatures. Les caricatures sont perçues comme, pour beaucoup de citoyens français de confession musulmane, comme une insulte. Et ils vivent ça en silence. C'est le fruit d'une sorte de pensée médiocre de prétendre que ces caricatures sont la parfaite expression de la liberté de la presse ou de l'expression. Mais jamais, moi j'ai écrit que les assassinats étaient le résultat d'un quelconque racisme.
James McAuley?
Oui, juste pour revenir à l'affaire de tweet que Agnès cite, mais je vais pas critiquer publiquement un collègue, mais juste pour dire que Karen Hadia n'est pas du tout la directrice des pages opinion de Washington Post. Elle est éditrice pour certains contributeurs pour côté opinion globale, mais c'est un peu différent. Mais je peux vous dire qu'elle s'est excusée et supprimé le tweet. Et donc
elle a fait ses excuses et elle a dit « j'ai une responsabilité envers les faits », a-t-elle dit. Effectivement, parce qu'elle s'était largement trompée sur ce fait, c'est ça?
C'est ça. Et en gros, assez souvent, comme Adam vient de dire, nous recevons la critique que nous sommes biaisés ou que nous blâmons la victime en essayant d'enquêter sur les raisons pour lesquelles la France, plus que tout autre pays occidental, a souffert si souvent de ces attaques terroristes islamistes depuis 2012 avec
Mohamed Merah.
Exactement, à Toulouse. Et chaque fois que j'ai exploré les facteurs structurels qui contribuent au séparatisme islamiste, j'ai été personnellement attaqué par des acteurs français. Mais qui m'a convaincu d'explorer ce domaine? Et c'était Emmanuel Macron lui-même qui, est dans son discours puissant au Mureaux, qui a souligné plus que tout autre président français précédent, le rôle de la République elle-même dans la création des communautés isolées, frustrées et en colère. Il a dit énormément de choses aussi sur la mémoire de la guerre d'Algérie et la création de ces identités compliquées en relation de cela. Mais si nous, les correspondants américains, osent évoquer l'un de ces facteurs, jamais comme des explications définitives, mais comme des circonstances aggravantes qui aident à expliquer le phénomène, on est attaqué comme si on ne comprenait pas la situation sur place, même si on vit aussi à Paris et qu'on a connu le sentiment de peur qui commence à définir le quotidien ici depuis plusieurs années. Et c'est ça aussi qui est important à comprendre.
Adam Nociter, vous voulez rajouter quelque chose à ce que vient de dire James McAuley?
Non, je suis complètement en accord avec lui. Il faut toujours essayer de comprendre le contexte dans lequel ces faits se produisent. Sans cela, on ne fait pas son boulot. C'est le rôle du journaliste de comprendre la globalité des circonstances qui entourent un fait particulier.
Et c'est d'ailleurs très intéressant, oui. Parce qu'effectivement, vous dites, comme vous le dites d'ailleurs dans Le Point aujourd'hui, nous essayons de voir clair, c'est tout, mais effectivement, on entend dans la petite musique dont je parle depuis le début de cette émission qu'il y aurait des sortes de ressorts secrets à vos prises de position, à la façon dont vous décrivez la réalité française. On va y revenir dans un instant, après un moment, effectivement, qui n'a rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. C'était en 2015 et les fameuses no-go zones.
It was pretty scary, and I've been to Afghanistan, Iraq, and Kashmir, India, and at times it felt like that, those places in the banlieue, in these no-go zones. You see young men wearing Osama bin Laden t-shirts in a hookah shop, and it seemed very mainstream and very accepted. This is the efforts of Islamists like the Muslim Brotherhood or Al-Qaeda to recruit off the streets of the no-go zones is not something that's hidden in the shadows.
No-go zones.
No-go zones.
So there are no-go zones.
No-go zones.
No-go zones.
No-go zone means
the no-go zone.
No-go zones.
No-go zones.
No-go zones.
No-go zones.
But we keep talking about the no-go zones in France here.
You basically have zones where Muslim density is very intense, where the police don't go in, and where it's basically a separate country almost, a country within a country.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Vous écoutez un temps du débat qui se demande justement comment nous sommes compris par les médias américains en compagnie de trois invités. Adam Nociter qui dirige le bureau du New York Times à Paris depuis 5 ans, je crois maintenant. James McAuley qui est le correspondant du Washington Post à Paris. Et Agnès Poirier qui est journaliste et essayiste et qui est correspondante pour la presse anglo-saxonne et qui écrit pour les journaux en particulier. J'ai dit anglo-saxonne, vous voyez, j'ai eu tort. La presse anglaise et la presse états-unienne. Donc en France, on vient d'entendre Nolan Peterson et Steven Emerson qui à l'époque parlaient des no-go zones dans le fameux Paris des années 2015. Agnès Poirier, on a tendance à vouloir monter la question en généralité en disant eh bien, ce serait deux universalismes, par exemple, qui s'affrontent. Ce seront deux modèles ou deux idées, deux visions du monde qui seraient l'une, entre guillemets, avec les caricatures que l'on peut avoir des États-Unis communautaristes et de l'autre, une société républicaine qui voudrait ne pas accueillir ses citoyens musulmans. Qu'est-ce qu'il en est exactement de votre point de vue?
Oh, bah, les relations franco-américaines sont fascinantes. On peut parler peut-être de la laïcité parce que on est très similaires et pourtant assez différents. Bon,
il faut rappeler, si on lit Denis Lacorne, par exemple, que la question laïque est une question centrale à la création même des États-Unis.
Oui, tout à fait. Il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, la séparation entre l'Église et l'État est actée à ce moment-là, en tout cas son idée. Mais en fait, ensuite, l'application est très différente parce que, ou l'esprit en tout cas est très différente, parce que, pour résumer peut-être de façon un peu simpliste, aux États-Unis, la religion doit être protégée peut-être de l'intrusion du pouvoir fédéral. Et en France, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on doit protéger l'État et la société civique de l'intrusion possible de la religion. N'oublions pas quand même qu'il y a une grosse différence qui est que la France a connu les guerres de religion. La Saint-Barthélemy est vraiment gravé dans notre ADN, on ne veut plus de ça, et puis que la laïcité, la loi de 1905, est un long processus intellectuel qui a commencé en 1789. Et l'idée aussi, surtout, ne pas oublier qu'elle est fondée dans ce combat, c'est un combat, c'est vrai, et dans ce conflit avec ou contre l'Église catholique, c'est très important, qui était à l'époque monarchiste. Donc c'est la République contre la monarchie et contre l'Église catholique. Si on n'explique pas ça, en fait, le travail du correspondant, c'est d'expliquer ça, d'être le vecteur, le traducteur dans le sens large, auprès de son lectorat, qu'il soit américain, britannique, etc. Et c'est important, l'histoire, parce que c'est comme ça qu'on comprend l'autre. Ça ne veut pas dire que on porte un jugement de valeur ou un jugement moral, mais le contexte historique, je pense, n'est pas souvent rappelé en ce moment.
James McCauley, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez bien justement cette histoire?
Je vous dis que je suis complètement d'accord, mais Agnès a tout à fait raison avec les différences de l'histoire de France et l'histoire des États-Unis. Mais l'histoire est toujours importante, c'est sûr, mais il y a aussi des moments quand on ne peut pas juste dire que, ah oui, c'est une particularité française, la laïcité, et ça explique tout. Par exemple, il y a énormément de polémiques autour du voile qui, par exemple, l'affaire, je pense que c'était l'année dernière avec le hijab decathlon. Et c'est donc quelque chose comme ça. Et c'est très souvent en France, c'est presque chaque 3 mois, on a quelque chose comme ça. Et donc, il y a énormément de commentaires, polémiques contre l'idée qu'une femme voilée, pas contre une femme voilée, contre le fait que Decathlon a vendu une voile pour que une
Decathlon, oui, c'est ça.
Exactement, pour que une femme musulmane pour faire son jogging en tant qu'être voilée, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est un peu compliqué pour nous, ou je dois dire pour moi, à expliquer à mes lecteurs. Car franchement, la laïcité, la loi de 1905 que j'admire énormément et qui est une belle législation, ne présente aucune restriction là-bas. Et donc, comment expliquer ce phénomène, le fait qu'il y a des ministres français qui critiquent ces femmes, qui en fait ont l'envie de participer dans la vie républicaine, de faire leurs exercices en public, pas contrôlés par leur mari ou par leur religion. Mais c'est ça qui, pour moi, qui est le problème de temps en temps.
Adam Nociter.
Oui, je trouve trop souvent que ce concept de laïcité et son prétendu sosie malveillante, le multiculturalisme à l'américaine, sont des concepts qui sont utilisés pour bastonner une certaine communauté. Donc là encore.
Vous dites dans Le Point aujourd'hui que ça sert de cache-sexe pour masquer les problèmes de la France. C'est comme ça qu'en tout cas que Le Point a titré, et on sait que les titrailles, ce n'est pas toujours la réalité de ce qu'on a dit, mais vous l'avez dit dans l'entretien que vous avez donné au Point, Madame Nociter.
Oui, je ne renie pas. Je crois que ces concepts-là sont avancés très souvent pour masquer les vrais problèmes sous-jacents dans la société française, dont la discrimination, la ségrégation résidentielle, le racisme dans la police, etc., etc. Et trop souvent, on brandit ce concept de laïcité comme si ça pourrait cacher tout. Mais ouais. Non, je crois pas.
James McAuley, puis Agnès Poirier. James McAuley, brièvement, je redonne la parole à Agnès Poirier.
OK.
Allez-y, brièvement, si vous voulez intervenir très brièvement.
À moi ou à Agnès ?
À vous, tout de suite, James McAuley.
OK, mais en fait, je ne peux pas parler au nom de tous les correspondants américains, mais je peux seulement parler pour moi-même. Mais je souligne aux nos lecteurs français que c'est précisément parce que j'admire tellement le l'universalisme français que j'écris les articles que je publie et j'explique. Mais j'ai grandi dans le sud des États-Unis, une société, et je sais que Adam a passé beaucoup d'années là-bas aussi, et ça c'est une société marquée à jamais par l'héritage brutal de l'esclavage, les décennies de ségrégation qui ont suivi et qui persistent toujours. Et je peux témoigner qu'il ne s'agit en aucun cas d'un modèle à imiter. Et je crois vraiment que l'universalisme est une belle aspiration. Mais bien sûr, il y a une différence entre l'idéal et la réalité. Et de temps en temps, il y a de graves menaces qui pèsent sur l'universalisme français, mais sans propre langage pour le décrire et le condamner proprement. Et ici...
Agnès Poirier, vous qui écrivez pour la presse anglaise et pour la presse états-unienne, vous diriez quoi de différent de ce qui vient d'être dit par Adam Nociter et par James McAuley?
C'est très intéressant. Par exemple, James parle de l'esclavage. L'histoire française et américaine sur ce sujet sont très différentes. Donc ça, à mon avis, ça vaudrait la peine... quand on parle de discrimination raciale dans les deux pays, ça vaudrait la peine à chaque fois, de façon pédagogique, de rappeler les différences, par exemple. Adam a parlé des caricatures et même de la laïcité comme un cache-misère, donc, ou pour une excuse pour bastonner, si j'ai bien compris, Adam, discriminer. Bon, c'est une opinion assez américaine, mais qui remet en cause quand même la liberté d'expression, parce que la caricature ou la liberté d'expression est à la fois un bienfait et une souffrance. Donc, si il faut accepter la souffrance que l'on peut ressentir pour pouvoir bénéficier du bienfait, si vous voulez. Oui, les caricatures, toutes les caricatures vont à un moment donné vous offenser. Mais à ce moment-là, si on arrête ça, c'est plus la peine. Maintenant, parler de comment dire. Moi, j'ai envie de dire. Que c'est une grande confusion quand même de parler de la laïcité comme d'une cache-misère des inégalités, par exemple, économiques et sociales, parce que ce sont deux choses totalement différentes. Et alors, évidemment, parlons des discriminations raciales, économiques, sociales. Ça, à mon avis, c'est le vrai sujet. Mais la laïcité, c'est une neutralité. Elle a rien fait, la pauvre. C'est un principe admirable et c'est aussi quand même notre ADN. Donc, c'est quand même important de le savoir quand on est étranger en France. C'est dans l'article premier de la Constitution, me semble-t-il. Voilà, la France est une démocratie et une république, pardon, démocratique, laïque, sociale, etc. C'est important.
Adam Nociter.
Oui, j'admire le concept de la laïcité, sauf quand il sert à insulter les autres. Et je vois très mal comment on peut accepter d'être insulté, de souffrir une insulte pour les autres. Je crois qu'il y a une histoire de caricature dans ce pays qui n'est pas si admirable que ça. Et c'est très bien de dire, pour les musulmans, vous devrez accepter ces caricatures, mais qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Est-ce qu'ils sont contents avec ça? Est-ce qu'ils doivent souffrir ce genre d'insultes en silence pour la cause de la liberté de l'expression? Je ne crois pas. Je crois que c'est un double échelle là que vous érigez.
Est-ce que James McAuley, vous pensez qu'il y a dans ces attaques vis-à-vis de la presse anglo-saxonne, la presse américaine, etc., il y a tout de même, on est le pays en Europe le plus anti-américain, qui a toujours été, il y a une tradition d'anti-américanisme, même s'il y a une tradition de fascination pour l'Amérique, mais on sait depuis au moins la Seconde Guerre mondiale qu'il y a une grande tradition d'anti-américanisme. Philippe Roger, historien, l'a bien raconté, toutes les variantes de l'anti-américanisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans ces critiques vis-à-vis de cette presse américaine quelque chose qui ressemble à cela, ou est-ce que ce serait une sorte de concurrence ou un miroir qui nous serait tendu que nous n'aimerions pas?
C'est une question compliquée. Et aussi, je ne suis pas sûr que la France est le pays le plus anti-américain en Europe ces jours-là. Mais en gros, c'est compliqué à dire. Mais pour moi, ce qui me frappe de temps en temps, c'est cette accusation que il y a énormément de confusion chez nous, les correspondants américains à Paris, qui fait toujours une amalgamation avec notre propre histoire et l'histoire française. Et pareil, il y a énormément de façons à répondre, mais juste un petit exemple. Je pense notamment aux statistiques choquantes révélées par M. Jacques Toubon, l'ancien défenseur de droit, ouais, qui a déclaré cet été qu'un homme de moins de 25 ans, je crois, perçu comme noir ou arabe, a presque 20 fois plus de chances d'être arrêté par la police que toute autre personne. Et donc, quand on écoute que, ah oui, la France est universaliste, la France ne voit pas la couleur, ni la couleur, ni la différence entre citoyens, ça, c'est un peu difficile à accepter quand on a les chiffres comme ça. Et ce n'est pas les chiffres donnés par un chercheur américain, c'est bien évidemment le défenseur de droit de la République lui-même. Et donc... c'est ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui me rappelle en tant qu'Américain de notre société qui a énormément de problèmes avec ça, que nous souhaitons pas du tout avoir en étranger. Et souligner ces contradictions d'aujourd'hui comme ça, ce n'est pas se méprendre sur l'universalisme ou l'histoire française. C'est une façon de la défendre dans un sens, dans l'espoir que l'universalisme prévaudra toujours.
Agnès Poirier, qu'est-ce que vous en pensez de ce chant d'amour à l'universalisme français de James McAuley, effectivement
Oui, mais qui dit que la France n'est pas raciste? Évidemment qu'il y a du racisme en France, et c'est merveilleux d'avoir, les correspondants étrangers apportent dans tous les pays dans lesquels ils sont, et moi, c'est formidable de se voir avec les yeux d'autres, de gens qui n'ont pas été éduqués dans le pays, et ils tendent comme ça un miroir, et c'est toujours fascinant de se voir dans les yeux des étrangers, des correspondants étrangers. Et donc, oui, il y a du racisme en France. Bon, alors, mais ça, ce n'est pas nouveau. J'aurais bien aimé que Adam Nocitair nous parle. Il dit que
brièvement, vous avez 2 minutes.
Bon, alors il nous a parlé d'insultes, que la laïcité insulte. Mais moi, je veux bien. Mais qui, quoi, comment? La laïcité n'insulte pas plus la liberté d'expression, plus les musulmans.
Adam Nocitair.
J'ai dit que ces caricatures qui sont si âprement défendues par M. Macron sont une insulte pour une grosse partie de la population française qui se trouve d'être de confession musulmane. Alors, maintenant, on leur demande de souffrir cela en silence, d'être des martyrs pour la cause de la liberté d'expression. Mais est-ce que ce n'est pas leur demander trop? Je pose la question. Il y a une histoire extrêmement inglorieuse de caricatures dans ce pays. Je pense à l'exposition célèbre de 1941, Le Juif et la France. Ouais. Tout un mur de cette exposition était consacré à des caricatures des Juifs. Est-ce que les Juifs, à cette époque-là, auraient dû subir cela
pour la cause de la liberté d'expression.
Je ne sais pas si on peut comparer Charlie Hebdo et Vichy et amalgamer tout ça. Tout le monde souffre. Les catholiques souffrent de Charlie Hebdo. Ils sont bien plus l'objet de caricatures. Il ne faut pas acheter Charlie Hebdo si on ne peut pas accepter la caricature.
Malheureusement, nous devons clore cette émission. Malheureusement, merci en tous les cas à tous les trois. Merci à vous, Adnan Monsiter. Vous êtes directeur du bureau de Paris du New York Times. Je crois que vous partez d'ici quelques semaines ou quelques mois, je ne sais, pour quitter ce poste. Mais merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous, James McCauley. Vous êtes le correspondant de Washington Post à Paris. Et à vous, Agnès Poirier, donc journaliste et essayiste et qui est correspondante pour l'Express au Royaume-Uni et qui écrivait pour les journaux anglais et donc britanniques et états-uniens. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier, Iman Gilles, Marie-Claire Oumabadi était à la technique avec nous aujourd'hui et Assia Ralid à la réalisation. Dans le temps du débat demain, un an après le Grenelle sur les violences conjugales, nous nous demanderons si les engagements de ces violences, de ce Grenelle ont été tenus.